RTL l'équipe. Carrément vélo, Emmanuel Barre.
Bonjour à tous et bienvenue sur RTL Équipe, c'est un plaisir de vous retrouver, 11h midi, c'est Carrément Vélo avec mes invités, on analyse, on décortique toute l'actualité du cyclisme. Vino, is back, du grand Vino Kourov hier sur les routes de Liège, Bastogne-Liège, on n'arrête pas, Vino c'est le titre de l'équipe ce matin. Il est resté au placard pendant deux saisons et en quelques mois à peine, il a prouvé qu'il était toujours un coureur de panache, du courage, il en a et il l'a encore prouvé hier. Premier Vino Kourov, deuxième Kolobnev, troisième Valverde, un podium au goût amer, n'hésitez pas à réagir sur la page Facebook de l'émission Carrément Vélo. Yvon Sanquer, le manager de la formation Astana, sera avec nous en première partie d'émission. Un Français à la tête d'une équipe kazakh, ça fait des étincelles, mais forcément quand on dirige des coureurs comme Vino et Contador, c'est toujours plus facile de gagner des courses. Les Français hier, un peu plus dur tout de même, mais pas mal quand même. Beauclair et 11e Thomas sera avec nous en deuxième partie d'émission. 11h midi, c'est Carrément Vélo.
Carrément Vélo, c'est sur RTL Équipe.
Et sachez que vous pouvez également écouter ou réécouter le podcast de l'émission Carrément Vélo sur RTL.fr. Je rappelle l'adresse RTL.fr. Vous allez dans la rubrique podcast. Jean-Paul Brouchon, bonjour.
Bonjour Manu, bonjour à tous.
Jean-Paul n'est pas isback hein, comme Vino Kourov. Il est là tous les lundis dans Carrément Vélo. Il est toujours là, Jean-Paul.
Je suis surtout dubitatif.
Ah, on en parlera un petit peu plus tard. Je l'entends respirer depuis Scoupiland de La Rochelle, où il profite de la mer, du soleil, j'imagine. Bonjour Pierre.
Oui, mais très agacé par cette victoire. Ah. Bonjour. À tous.
Pierre Salviac est avec nous et ça démarre bien, il est agacé. Nicolas Pertuis de Vélo Magazine, salut Nicolas.
Salut à tous.
Et Frédéric Millet du Cycle également, il est de retour.
Bonjour.
Là il est is back, ça c'est sûr. Ouais. Frédéric Millet est avec nous. Allez, ça, on va partir directement. Alors Pierre, je vais venir vers vous puisque vous êtes énervé, on va pas vous faire bouillir plus longtemps. Vino Kourov remporte Liège-Bastogne-Liège, c'est sa deuxième victoire. Hein. On rappelle qu'il a déjà remporté la doyenne. Alors vous en pensez quoi de cette victoire, Pierrot?
Ben, j'en pense que c'est pas le vainqueur. Tout simplement. Enfin, pour moi, en tout cas, ce n'est pas le vainqueur. Je suis désolé, mais je n'arrive pas à comprendre, à moins qu'on m'explique et qu'on me trouve des arguments, comment un coureur de haut niveau peut arrêter la compétition pendant deux ans, et à 36 ans, revenir pour dominer à ce point Liège-Bastogne-Liège. Faut qu'on m'explique.
Nicolas Pertuis.
Oui, Pierre, mais il suffit quand même de regarder un peu la fin de saison passée. On voit que Vino Kourov a fait plutôt une bonne fin de saison. Dans des places dans les 10 premiers, dans les courses qui précédaient le Tour de Lombardie, où il fait d'ailleurs aussi une place dans les 10 premiers. Un Tour d'Espagne, on l'a vu, il avait failli gagner une étape. Donc, c'est pas le comeback d'hier, quoi. C'est un comeback qui est quand même en marche depuis une dizaine de mois, en tout cas au niveau des compétitions. Maintenant, après, on peut polémiquer sur la victoire de Vino Kourov, mais j'ai envie de dire, il y a eu une première partie de retour qui a été celle de la fin de saison dernière, où il a montré d'ailleurs à un tour de l'arrivée des championnats du monde,
oui.
Il était en tête. Donc il n'était pas si loin que ça. Et puis là, cette année, bon, ben voilà, il gagne cette course.
On finit notre tour de table juste avant d'accueillir Yvon Sanquer, le manager de la formation Astana, et on lui posera bien évidemment la question. Jean-Paul Brouchon, la victoire de Vino.
Bah, comme je vous ai dit, moi je suis dubitatif. D'un côté, je salue la performance de Vino Kourov, car c'est véritablement une performance. C'était lui l'un des meilleurs hier, peut-être avec Philippe Gilbert. J'ai trouvé que Thomas Vauclair a été très bon. Mais d'un autre côté, il y a quand même tout un très très gros problème qui est posé à l'Union Cycliste Internationale. Et malheureusement, on se rend compte que l'Union Cycliste Internationale ne remplit pas son rôle. Elle veut absolument tout faire toute seule et elle n'est pas capable de faire tout toute seule.
Frédéric Millet du Cycle.
Bah, moi, je serais un peu. Je suis admiratif de Vino Kourov par sa science de course à chaque fois. Il met toujours dans le mille. Et hier, je me suis dit, Kolobnev, comment il va faire? Il arrive toujours à gagner, donc on ne peut pas lui enlever que c'est un gagneur. Il a purgé ses deux ans de suspension, comme il dit, sans rien dire et tout ça. Bon, que dire d'autre? On ne peut pas non plus, lui enlever ça, quoi. Donc. Il revient, il est le meilleur. Il y en a d'autres qui ont fait des comebacks qui ne sont pas revenus au top niveau. Lui, il revient, donc ça peut peut-être justifier ce qu'il dit, quoi.
En tout cas, ça, il a du courage, c'est une certitude. Il en avait déjà avant son
contrôle. Je suis écœuré parce que j'entends, là.
Bah écoutez, attendez, on va en parler avec Yvon Sanquer qu'on accueille sur RTL Équipe. Bonjour Yvon. Yvon, vous êtes là?
Oui, bien
voilà,
sûr.
Voilà, il est avec nous. J'imagine que vous avez entendu là le tout début d'émission, les dix premières minutes. On rappelle donc Yvon Sanquer, manager de la formation Astana, qui dirige tout simplement Alberto Contador, le dernier vainqueur du Tour de France, et Alexander Vinokourov. Alors, est-ce que vous êtes heureux de cette victoire? J'imagine que oui, forcément, tout de même en tant que patron de cette équipe.
Mais je pense qu'on ne peut être qu'heureux quand il y a un coureur qui gagne une telle épreuve. Je pense aussi que c'est le travail d'une équipe. J'entends des choses. Je veux bien, je pense qu'il faut toujours garder raison et puis aussi essayer d'analyser un petit peu plus profondément les choses. Hier, il n'y a pas eu une démonstration inconsidérable de la part d'Alexandre. Il y a eu avant tout un bon travail d'équipe, une course qui a mis du temps à se décanter. La présence d'Alberto Contador qui a bien accompagné Andy Schleck quand il a attaqué. Et puis l'opportunité d'Alexandre pour contrer à un moment où les favoris sont peut-être un peu neutralisés. En tout état de cause, je pense que, comme il était dit, Alexandre Vinokourov a beaucoup travaillé ces 10 derniers mois. Il y a un potentiel de départ qui existe.
Même pour, si justement, est-ce que ce potentiel suffit pour répondre à la question de Pierre Salviac? Est-ce qu'on peut arrêter la compétition pendant 2 saisons et revenir et évoluer directement au plus haut niveau? Est-ce que c'est possible d'un point de vue sportif, physiologique?
Ben écoutez, l'année dernière, Lance Armstrong était au départ du Tour de France. Il avait également arrêté 2 saisons à un âge plus avancé. Je crois que on peut fournir un travail important. Continuer de s'entraîner, ce qui a été le cas de Vinokourov pendant ces 2 années. Ça, c'est peut-être aussi ce que les gens ne savent pas bien. Les gens qui ont vu Vinokourov au bout des 2 années de suspension ont pu s'apercevoir qu'il n'avait pas pris beaucoup de poids, qu'il avait des jambes de coureur encore. Après, il y a les questions qui se posent, que certains se posent. Bon, elles sont légitimes. Effectivement, il y a une...
Vous les comprenez, ces questions ?
Je les comprends, moi je suis quelqu'un d'ouvert, chacun a le droit de penser ce qu'il souhaite, moi j'essaie de faire mon travail correctement, que l'équipe fonctionne bien et que les coureurs respectent les règles éthiques imposées. Voilà, donc à partir de là il y a un résultat sportif qui est là hier et c'est celui que je constate et j'essaie de regarder moi si les choses qui fonctionnent me semblent rationnelles.
Pierre Salviac.
Je comprends Sanquer, il fait son boulot et puis il a un vocabulaire, une argumentation qui peut s'entendre. N'empêche que moi qui suis de l'autre côté de la barrière, qui suis un type qui aime le vélo, qui passe ses dimanches devant la télé pour regarder les courses cyclistes, je peux pas croire à ça. Je suis désolé, je peux pas croire à ça. On est en train de nous maquiller quelque chose. Je suis désolé, mais quand t'as été pris par la patrouille, t'as été pris par la patrouille. Il y a des métiers où quand t'as été pris par la patrouille, t'as plus le droit de les refaire. Là, quand je vois qu'on se sert comme argument le cas de Armstrong, mais qu'est-ce qu'il a gagné Armstrong depuis qu'il est revenu? Qu'est-ce qu'il a gagné?
Alors il a tout de même terminé 3e.
Qu'est-ce qu'il a gagné? Qu'est-ce qu'il a gagné?
Il a gagné beaucoup d'argent pour sa fondation.
Voilà. Ça c'est sûr. Voilà. Mais il a tout de même terminé 3e.
Le métier du président de la République.
Voilà, au passage. Excusez-moi, je peux intervenir.
Bien sûr. Allez-y. Bon.
Dans les métiers, Pierre Salviac, très très bouillant. Il s'agit pas de métier, il s'agit de règles de justice. Vous faites une erreur, vous payez cette erreur, que ce soit dans la vie de tous les jours. Derrière, vous avez le droit de revenir. On laisse pas les gens, par exemple, en prison éternellement parce qu'ils ont volé ou fait ceci ou cela. Donc après, il y a des règles par rapport à ça. Il y a des métiers où il y a des gens qui ont fait des erreurs qui reviennent le faire. Il y a des coureurs qui ont fait des erreurs et sur lesquels ils sont revenus, ils ont fait des performances. Et on peut aussi espérer qu'ils aient compris et qu'ils refassent leur métier correctement. Je crois qu'il faut se garder d'être trop sentencieux. Et puis, il peut y avoir aussi des coureurs qui fassent des erreurs à nouveau. Donc, je crois qu'il faut être un peu plus mesuré.
Yvon, la liberté d'un type qui aime le vélo, qui regarde le vélo, qui suit le vélo, sa liberté aussi, c'est de considérer qu'il y a des tricheurs et qu'il n'y en a pas. Et que quand tu as été tricheur, tu as été tricheur.
En même temps, j'ai envie de dire, Alexander Vinokourov, sur les classiques, c'est pas forcément surprenant de le voir tout de même. Là, j'ai vraiment le sentiment qu'il évolue à son niveau. Quand en 2007, il commence à lorgner sur le Tour de France, sur les courses de 3 semaines, quand on le voit avec les meilleurs au sommet des cols, c'est vrai que là, on peut commencer à se poser des questions. Nicolas Pertuis, après 250 km sur une classique, on connaît ses qualités, on connaît son courage, on sait qu'il est capable d'en décrocher une, j'ai envie de dire, à l'eau.
Oui, surtout qu'il vient de gagner le Tour du Trentin. Mais j'ai envie de dire, Vinault, dans un registre d'une classique, me rassure plus que dans le registre du Tour du Trentin. Mais en même temps, moi j'ai envie de dire à Yvon Sanquer que moi aussi, j'essaye de bien faire mon métier. Et j'essaye de le faire. Moi, ce qui m'intéresse dans le coureur cycliste, c'est comment il prépare les objectifs. Et il y a des coureurs qui n'ouvrent pas leurs portes. Alors, Alberto Contador en fait partie. Je suis désolé de vous dire ça. Ça fait plusieurs années que j'essaye de savoir comment Alberto prépare le Tour de France, par exemple. Son entraîneur, il n'y a jamais possibilité de le joindre. Il n'y a jamais moyen d'avoir un indice sur la manière dont il travaille. C'est compliqué pour nous de bien faire notre métier. Alors, je veux bien croire Alexandre Vinokourov. Moi, je n'ai rien contre lui et sa victoire hier, elle est plutôt bien. Mais alors qu'il ouvre ses portes aussi et quand on veut faire un sujet intéressant, je dis bien intéressant, c'est-à-dire qu'on parle vraiment de travail cycliste, que les portes soient ouvertes. Parce que quand elles restent fermées, comprenez que derrière, il y a des interrogations de la part des journalistes et après des lecteurs.
Yvon Sanquer.
Je comprends ça, je comprends mieux ce type de discours. J'y suis plus sensible. Moi, effectivement, je respecte le travail des journalistes, je respecte aussi le droit à l'information des passionnés de vélo. Qu'on ait envie d'avoir plus d'explications sur la manière dont procèdent les coureurs et travaillent pour arriver à leur meilleur niveau, je pense que ça, c'est quelque chose qui est important. Moi-même, je regarde ça. C'est un de mes éléments d'analyse pour rester vigilant par rapport aux coureurs. Moi, j'ai pas d'a priori vis-à-vis des coureurs, mais je suis aussi là pour essayer de faire que l'équipe fonctionne bien, fasse les meilleurs résultats, mais en restant dans le cadre éthique. Donc, effectivement, l'argument développé, et si on peut aller vers plus d'arguments à ce niveau-là et plus de transparence, pourquoi pas?
Alors le discours est clair en tout cas concernant celui d'Yvon Sanquer, manager, on le rappelle, de la formation Astana. Je vous propose d'écouter une réaction, celle de Laurent Jalabert, sélectionneur de l'équipe de France et consultant pour RTL et RTL Équipe. On l'écoute juste après bien sûr la victoire d'Alexander Vinokourov hier sur la 96e édition de Liège-Bastogne-Liège.
Ça va pas faire plaisir à tout le monde, cette victoire, c'est pas forcément de mauvaise nouvelle parce que Vinokourov c'est un garçon qui a toujours eu énormément de classe. On sait qu'il a triché, on sait qu'il a été suspendu, qu'il a payé pour ça, maintenant il revient. Moi j'ai envie maintenant de souligner le mental qu'il faut pour revenir à ce niveau-là. Après avoir été suspendu 2 ans, décrié de tous, Vinokourov revient. Et aujourd'hui il fait son combat, qu'on peut dire, sur le premier plan. Quoi. Et il n'y a pas de doute, là il est revenu à son meilleur niveau. Évidemment, on ne peut pas oublier tout ce qui s'est passé avant. Et on ne peut pas non plus se réjouir que des garçons qui ont porté autant d'atteintes à l'image du cyclisme sont encore dans le peloton et encore en train de sévir dans les classements.
Laurent Jalabert, le consultant RTL et RTL Équipe concernant le vélo et sélectionneur également, il faut le rappeler, de l'équipe de France. Voilà pour la réaction de Laurent Jalabert. Frédéric Millet, ça fait un petit moment qu'on ne vous a pas entendu. Qu'est-ce que vous évoque donc la victoire d'Alexander Vinokourov et tout ce débat? On peut comprendre tout de même que effectivement c'est une victoire qui ne fait pas forcément plaisir à tout le monde.
C'est sûr, mais dès le moment où on instaure des règles, où comme on dit, il a payé ce pourquoi il a été puni, je ne vois pas pourquoi après on devrait toujours ressasser sur le passé. Certes, c'est un peu gênant qu'il ait
Moi, je vais vous dire, ça me dérange plus de voir Valverde 3e que Vinokourov vainqueur hier, par exemple.
Ouais.
Ça en fait déjà 2 sur le podium. Sur 3, c'est déjà pas mal, les gars. Hein,
oui, on est d'accord, mais bon.
Mais moi, quand je regarde une course, en même temps, Liège-Bastogne-Liège, quand je vois les 10 premiers, il n'y a pas de gens qui me semblent un petit peu hors normes. C'est toujours les 10 mêmes. C'est des gens qu'on retrouve sur le tour, sur les grandes courses. Donc, j'essaie d'analyser en me disant que ces gens-là, ces coureurs-là, ont peut-être un petit peu quelque chose en plus. On lit dans l'équipe qu'il a une certaine classe, Vino. Et je ne veux pas dire que le dopage n'y fait rien ou pas, mais j'ai pas ce sentiment d'être mal à l'aise comme peuvent l'être tous les autres.
Alors Jean-Paul. Alors moi, à propos de Vinokourov, il y a quand même quelque chose que je voudrais dire. Et Yvon, tu vas me dire si tu es d'accord avec moi. Vinokourov, il bénéficie, entre guillemets, d'un système qui a été mis au point par l'Union Cycliste Internationale, à savoir qu'il est coupable de transfusion homologue. Il n'y a rien de pire que la transfusion homologue, parce qu'il faut aller chercher du sang d'un tiers. Là, on a parlé de son père. Il faut aller chercher du sang d'un tiers pour s'en l'infuser à soi-même. Il n'y a rien de pire que ça. Il n'y a rien de pire qui est contraire à l'éthique du sport, à l'éthique du cycliste. Il n'y a rien de pire. L'Union cycliste internationale n'a strictement rien fait. Elle n'a strictement rien dit, alors qu'elle aurait dû demander. Comment est-ce que ça s'était passé? Quel était celui qui était derrière? Il y a forcément un médecin qui est derrière. Il y a forcément du personnel médical qui est derrière. Elle n'a jamais rien fait. Elle n'a pas bougé. Vinokourov a continué à nier. Il a toujours nié qu'il s'était dopé. Toujours, toujours. Il l'a même encore redit hier en conférence de presse. Il a dit qu'il ne s'était jamais dopé. Alors qu'il y avait quand même une double population de globules rouges dans son sang. Il ne faut quand même pas nous faire rigoler. Donc il a bénéficié de ce laxisme de l'Union cycliste internationale. Tout à l'heure, si tu veux, je te parlerai encore de l'Union cycliste internationale, parce qu'il y a un cas très important qui vient de se produire, c'est le Chinois de l'équipe de Armstrong qui vient de se faire prendre. Et lui, il s'est fait prendre au clambutérol. Je ne sais pas si tu sais ce que c'est. C'est quelque chose qu'on donne aux chevaux de course. C'est encore pire que tout.
C'est-à-dire que si ce n'est pas bien dosé,
si ce n'est pas bien fait, s'il n'y a pas du personnel médical derrière, tu meurs tout de suite.
Mais là, je suis d'accord avec vous, Jean-Paul, parce qu'on en a assez. C'est vrai que finalement...
Voilà. Alors, l'Union cycliste internationale, elle est dans son coin. Elle ne veut rien faire. Elle ne bouge pas. En 2008, quand le Tour de France a été dirigé par la Fédération française de cyclisme, quand il y a eu le problème du Hénas, ce sont les gendarmes qui sont allés chercher du Hénas, qui l'ont fait parler, et toute la filière avec laquelle était affiliée du Hénas, elle a été supprimée. Quand le lendemain, quand ils sont venus chercher Rico, qu'ils l'ont emmené avec les menottes au commissariat de police, qu'ils l'ont fait réfléchir pendant 48 heures dans une misérable cabane là, de leur gendarmerie, Rico, il a tout raconté, il a tout dit. L'Union cycliste, et à ce moment-là, c'est pas l'Union cycliste internationale qui agit, ce sont les gendarmes. Et toute la filière de Rico, elle a été complètement annihilée. L'Union cycliste, elle a fait qu'une seule chose, elle a dit, puisqu'il a parlé, puisqu'il a été gentil avec nous, on va réduire sa suspension de 6 mois. Là, il y a un contrat qui vient d'être signé entre l'AFLD, l'Agence française de lutte contre le dopage, et la gendarmerie. Ça a été signé par le général Gilles, que tu connais bien, Yvon. Hein, c'est quelqu'un d'admirable. Hein, il aime bien le cyclisme, il aime bien tout. Malheureusement, il n'est plus directeur de la gendarmerie maintenant, et puis il va devenir ambassadeur. Il a passé un contrat. C'est-à-dire que maintenant, quand il y aura des grosses affaires, ça sera directement la gendarmerie qui va s'en occuper.
Tant mieux, c'est parfait.
Bien sûr. Hein, et qui va essayer de voir où sont les dealers, etc., etc., etc. De remonter toutes les filières. C'est ce que l'UCI est incapable de faire.
Alors, très rapidement, juste pour conclure, parce qu'on va tout de même se pencher également sur le sportif, on ne va pas que rester là-dessus, parce qu'il ne faudrait pas que cette émission devienne également tous les lundis un tribunal pour coureurs. C'est vrai qu'à un moment donné, il faut tout de même essayer d'aller un petit peu plus loin que les coureurs, aller taper là où ça fait mal, se faire une injection de PO ou se faire une transfusion homologue, vous l'avez dit, ça ne se fait pas tout seul. Il faut forcément de toute façon du soutien derrière, que ce soit au niveau des équipes ou au niveau d'une structure médicale plus importante. Donc, à un moment donné, si l'UCI ne prend pas position, si ça ne devient pas une affaire politique et si on ne donne pas les moyens pour aller plus loin également aux flics, essayer d'arrêter les bonnes personnes, eh ben, on sera toujours confronté à ce problème. Et c'est vrai que malheureusement, on est obligé de le dire, Pierre, c'est toujours les coureurs qui prennent parce que forcément, ils sont en tête de gondole, comme on dit.
Non, mais je voudrais dire quelque chose à Yvon Sanquer. C'est sûr que si je le charge à mort, il battra pas Bernardino malgré tout. Ça, c'est clair. N'empêche que Liège-Bastogne-Liège, c'est une grande classique. Ça a du prestige. Et aujourd'hui, on parle plus de la suspicion sur Vinokourov que de la victoire dans Liège-Bastogne-Liège. Parce qu'il y a un moment, il y a une partie des amateurs, des fans de vélo comme moi, qui se disent que quand tu as été tricheur, tricheurs et qui ne peuvent pas s'empêcher de penser à ça. Et je ne voudrais pas que tu défendes des causes comme celle-ci, parce que tu sais très bien qu'à 36 ans, s'arrêter 2 ans de faire de la haute compétition, si tu m'expliques que malgré tout, en s'entraînant, on peut revenir à son meilleur niveau, alors je te pose la question, pourquoi les professionnels ne s'arrêtent pas 2 ans en villégiature, quitte à se refaire une santé, pour reprendre après la compétition?
Yvon Sanquer.
Mais je pense que c'est pas de toute manière chose facile. Je crois que j'ai retenu dans l'intervention de Laurent Jalabert qu'il expliquait avant tout qu'il fallait un gros mental pour faire ça et s'astreindre à des charges de travail hyper importantes. Moi, j'entends bien tout ce qui se dit. Je suis évidemment pas favorable au type de pratiques qui se sont passées dans l'affaire d'Alexandre Vinokourov ou d'autres. Moi, je suis pas là non plus.
Quels sont vos rapports avec lui, justement, Yvon ?
Moi, j'ai des rapports normaux avec Alexandre. Il est évident qu'on a mis en place des règles précises au sein de l'équipe par rapport à ça. Il y a le suivi biologique, mais passeport biologique, mais il y a également un contrôle, je dirais, indépendant autour de l'équipe. Bon, sans qu'on fasse, on veuille donner de leçons, on essaie de faire, moi je vous le dis bien, mon travail le mieux possible, et je répète, dans les règles éthiques. Si jamais, dans le respect des règles éthiques, si jamais à un moment donné se pose la question d'une déviance de l'un ou l'autre, et en tout cas qui s'avère être présente au sein de l'équipe, on prendra les décisions qui s'imposent. Y compris si c'est pas relevé par une sanction au niveau du contrôle antidopage. Mais je pense qu'on peut pas faire de procès d'intention systématique aux athlètes non plus.
Yvon, pourquoi Vino et les autres alors avaient-ils besoin de se charger avant s'ils sont capables de gagner aussi bien et aussi facilement à Liège-Bastogne-Liège alors qu'ils sont pas chargés? Explique-moi.
Moi j'ai pas trouvé qu'il avait gagné facilement, mais bon, je pense qu'au pied de la Redoute cette année, il y avait un gros peloton.
Alors disons gagner, si tu veux.
Il y avait des coureurs. Des
c'est
coureurs
vrai qu'ils profitent un petit peu du marquage
moment,
entre les autres leaders.
Depuis un moment, dont on voyait aussi les difficultés qui, je m'en réjouis, sont de plus en plus présents dans les épreuves. Faut le noter, ça aussi. Ça, c'est un autre paramètre que j'entends pas aujourd'hui. Donc ça veut dire aussi que le niveau s'est resserré. Thomas Voeckler, c'est la première fois qu'il vient faire une place comme ça.
Ah bah il sera avec nous en deuxième partie d'émission, ils vont
content pour lui.
Il y avait Vaugrenard 8e
l'année dernière, donc ces derniers temps, le début de saison, regardez le début de saison des coureurs français, regardez la place de...
Nicolas Pertu de Vélo Magazine n'est pas tout à fait d'accord, Nicolas.
Mais ils vont arrête avec cet argument. Attendez, Pierre. C'est à partir de la 10e place qu'on classe les Français, arrête avec cet argument.
Non, j'ai vu des Français mieux qu'à la 10e place.
Nicolas Pertu.
Mais quand, simplement dire à Yvon qu'il faut remonter à 2006 pour ne pas retrouver un Français dans les 10 premiers des 3 classiques ardennaises. Donc on a fait mieux en 2007, 2008, 2009, et en 2010 on fait moins bien que les 3 dernières années.
Non, je suis pas certain. Moi j'ai vu le Tour du Pays Basque, j'ai vu un Sandy Cazard au niveau des meilleurs. J'ai vu les coureurs de français depuis le début de saison bien placés, et je m'en réjouis. Je vous dis, il me semble. Alors vous avez l'air beaucoup plus pointu que moi, visiblement.
Hein. Non, on aime le vélo. On aime le vélo, Yvon.
Moi, on aime le vélo. Je n'y connais rien.
Yvon,
donc on est sur ces bases-là.
Non. Yvon, arrête.
Que je vous dise, je viens vous m'expliquer avec vous et essayer d'échanger. Là, je vois visiblement qu'on n'est pas dans l'échange. On est dans le passionnel. C'est bien qu'il y ait des gens passionnés. Maintenant, par moment, il faut aussi avoir un petit peu de recul, un petit peu de réflexion. En tout cas, moi, c'est ce que j'essaie de faire. C'est mon travail. Je vais le faire le mieux possible. Je vais le faire dans le souci du respect de l'éthique et des gens qui regardent le vélo, parce que c'est ma manière d'être.
Mais ça on n'en doute pas, Yvon, c'est pas notre discours aujourd'hui.
J'entends des choses un petit peu, j'entends toujours la même chose, mais j'entends pas de solution.
Yvon, explique-moi alors comment on peut arrêter 2 ans la compétition et gagner Liège-Bastogne-Liège.
C'est impossible d'échanger là.
Alors
pourquoi
attendez,
c'est impossible,
oui, Pierre.
Au contraire,
alors attendez, messieurs, on va se calmer, on va tous se calmer un petit peu, parce que c'est vrai qu'on est parti tout de même sur une note assez chaude dès le début de cette émission.
On a fait
20 minutes sur la polémique autour de la victoire de Vinokourov. On a également souligné au passage que de toute façon c'est un coureur qui a une classe. Ça, on le passé. On a eu l'occasion de le constater déjà avant son contrôle positif. On connaît son courage. Et on sait de toute façon que Allo, c'est un coureur qui évolue un cran au-dessus, voire deux crans au-dessus que tous les coureurs français là-dessus. Moi, je franchement...
Non, je vous dis pas non. Non, moi, je suis convaincu que non. Je pense que hier,
il y a eu avant tout,
il était certainement un des plus forts. Il a bénéficié aussi, regardez la course,
du marquage des leaders.
De course, du marquage des leaders, ça, de la présence d'Alberto, etc.
C'est vrai.
Il n'y a pas une différence si énorme que ça. Mais bon, il y a un petit peu, et c'est vrai qu'après, à la fin, je vais vous dire, Colomnes était très, très fort aussi.
On est d'accord, il a pas survolé Liège-Bastogne-Liège, par exemple, comme Cancellara a survolé Paris-Roubaix et le Tour des Flandres. Là, on est d'accord.
Si Gilbert réagit tout de suite et accompagne, on inverse les choses, Philippe Gilbert accompagne Vinod Kourov au lieu de se faire contrer après une attaque, à mon avis, Philippe Gilbert bat Alexandre Vinod Kourov au sprint.
Non, mais là, on est d'accord. De toute façon, il ne s'agit pas de polémiquer X temps. C'est vrai que sur la performance hier, moi, la performance me paraît pas incroyable. Bon, c'est Vinod Kourov, il revient de suspension, alors certes,
mais
ça fait un petit peu tâche, c'est sûr,
mais
si on se penche sur le côté sportif, moi je suis également d'accord avec vos arguments. Nicolas Pertuis, juste avant le flash d'information, et si vous le voulez bien, Yvan, vous allez rester quelques minutes, on va prolonger un petit peu, on va se calmer, puis on va parler de l'avenir du Tour de France et du Giro qui va arriver dans quelques semaines. Nicolas.
Simplement dire que je suis vraiment pas contre les coureurs qui reviennent de suspension. D'ailleurs, moi, il y a un an et demi, dans mon métier, je me suis pris des pierres par beaucoup de mes confrères journalistes, parce que j'étais allé voir Ivan Basso avant qu'il reprenne. Mais simplement pour dire à Yvan Sancaire, j'étais pas allé voir Ivan Basso pour Ivan Basso. J'étais allé voir Ivan Basso qui faisait des simulations de course pour une reprise l'année d'après. Ça, c'était intéressant. Ivan Basso a ouvert les portes avec Aldo Sassi. Et moi, j'ai pu me faire mon opinion d'un vrai Ivan Basso. Et j'aimerais que ça se passe comme ça avec vous, simplement.
Bah, je pense qu'on peut vous fournir des relevés de travail avec SRM, etc. Vu par un coureur, par exemple, comme Vinod Kourov, travaille en permanence avec un SRM et a un SRM en course également, pour mesurer, quantifier les charges de travail et les reproduire à l'entraînement.
Allez, restez encore quelques minutes avec nous, on va faire une pause pour les informations. C'est un débat animé, mais c'est ça qui est intéressant tout de même. Et au moins, cette victoire, elle suscite la polémique. Mais voilà, il ne s'agit pas de polémiquer pour polémiquer. Mais en tout cas, c'est vrai que c'est intéressant tout de même de parler de ce retour, puisqu'il n'y a pas que Vinod Kourov, il y a également Basso, d'autres coureurs, les Millard également. Et puis, on en reparle avec vous toujours, Yvan Sancaire, manager de la formation Astana.
RTL Équipe. I want to ride my bicycle. Carrément Vélo, Emmanuel Barthes.
Il est 11h34, nous sommes ensemble jusqu'à midi pour Carrément Vélo. Bienvenue si vous venez de vous connecter sur le www.rtl-l'équipe.fr. Nous parlons vélo, bien sûr, le sujet du jour, la victoire d'Alexander Vinod Kourov sur Liège, Bastogne-Liège. Yvan Sancaire, son manager, est avec nous pour quelques minutes encore. Thomas Vauclair, le premier français, 11e hier, belle performance de la part de Thomas, tout de même qui flirte avec un top 10. Il n'est pas passé loin hier, il sera avec nous en deuxième partie d'émission. Surtout, restez connectés, n'hésitez pas à réagir également sur la page Facebook de Carrément Vélo.
RTL Équipe, Carrément Vélo.
Et puis vous pouvez également écouter ou réécouter bien sûr les émissions podcastées sur le site rtl.fr. rtl.fr, vous allez dans la rubrique podcast. Pierre Salbiac est avec nous, Nicolas Pertuis de Vélo Magazine, Jean-Paul Brouchon et Frédéric Millet du Cycle. Yvan Sancaire également pour quelques minutes toujours. Yvan, l'avenir de la formation Astana, l'avenir pour Vinod Kourov, pour Contador également, le Tour d'Italie qui va arriver très rapidement et Vinod qui se place tout de même, Yvan, je crois qu'on peut le dire, comme un des favoris pour le prochain Giro.
Écoutez, je pense que le Giro, c'est une autre épreuve. Hein. Ça n'a rien à voir avec les classiques. Donc, on verra ce qui va se passer sur le Giro. Il y a des très très bons coureurs au départ. Et chaque étape est importante. Mais bon, pour nous aussi, ce qu'on regarde actuellement, c'est surtout le mois de juillet, le Tour de France. Et notamment demain, une reconnaissance des pavés avec Alberto, qui est également aujourd'hui en train de tester du matériel.
D'accord. Comment il appréhende justement ce début de Tour de France? Je sais qu'on entend, il y a beaucoup d'observateurs qui considèrent qu'il pourrait peut-être être mis en difficulté sur les premières étapes du Tour de France en raison des pavés, du vent, du nord. Il est plutôt serein?
Moi, je pense qu'il est concentré parce que... Tous les débuts de Tour de France sont compliqués, mais c'est vrai que celui proposé cette année comporte quelques difficultés peut-être supplémentaires. Je pense qu'il est surtout concentré sur cette étape de pavé et puis l'étape en lande avec les deux grandes digues. Je crois qu'on va reconnaître ça méticuleusement, et le jour venu, il faudra être à 100% dans le contexte. Maintenant, bon, comme il le dit, ça ne l'empêche pas de dormir non plus. Je crois que la difficulté sera pour tous les coureurs et pas uniquement pour lui.
Allez, la dernière question pour Jean-Paul Bruchot avant de vous remercier, Yvon.
Oui, Yvon, qui sera le leader de l'équipe Astana dans le Tour de France ? C'est Alberto ou c'est Vino ?
Ouais, ça a été clairement exposé depuis longtemps. C'est incontestablement et de manière définitive Alberto.
Est-ce qu'il est possible que... Bon, je vais peut-être faire un petit peu de science-fiction. Est-ce qu'il est possible qu'un jour tu reçoives un coup de téléphone du président de la République du Kazakhstan ou du Premier ministre, puisque ce sont des grands amis de Vinokourov, et qu'il te demande de favoriser Vinokourov plutôt que Contador ? Est-ce que c'est possible ?
J'ai pas envie de répondre à cette question.
C'est très clair. Justement, la marge de manœuvre au sein de la formation kazakh, elle est totale pour vous, Yvon ?
Jusqu'à maintenant, oui, j'essaie de fonctionner, de faire mon travail correctement. Mais c'est mal me connaître que de me poser ce type de questions.
Bon, bah écoutez, en tout cas, je crois que le message est clair. On a bien compris que, de toute façon, depuis le début de saison, il n'y avait pas de souci. Le leader reste bien évidemment Alberto Contador. Et c'est vrai que, bon, Alexander Vinokourov, vainqueur hier à Liège, ce n'est pas forcément une surprise. Moi, je le répète, mais tout de même, sur le Tour de France, c'est vrai que ça deviendrait un petit peu plus compliqué si on le voyait tout de même avec les meilleurs en montagne et viser véritablement une place au classement général. Merci beaucoup, Yvon. Mais je pense, de toute façon, franchement, on va se parler franchement. Quand vous avez accepté de prendre la tête la saison passée de la formation Astana, vous saviez très bien à quoi vous pouviez vous exposer, justement, à ce type de réaction et à ce type d'interrogation, en tout cas.
Mais je l'accepte, ça fait partie de mon travail. Je vous dis, mais c'est bien mal me connaître que de me poser certaines questions. Voilà.
Allez.
J'ai pas de souci avec ça.
Bon, le message est clair. On espère bien sûr vous retrouver un petit peu plus tard sur le www.rtl-l'équipe.fr. Pour d'autres victoires, c'est une certitude en tout cas. De toute façon, ça débute bien pour la formation Astana si on retrouve un petit peu le début de la saison avec les victoires d'Alberto Contador. Et donc, hier, on le rappelle, Alexander Vinokourov, vainqueur de la 96e édition de Liège-Bastogne-Liège.
RTL équipe, carrément vélo.
On a tout dit, messieurs, sur le podium en tout cas. Premier Vinokourov, deuxième Kolobnev, Frédéric Millet, habitué des deuxièmes places,
ouais,
deuxième au mondial.
Ça nous promet quand même un drôle de Tour de France, parce que j'ai l'impression que les tensions de l'année dernière, elles vont encore exister cette année.
Ah, je sais pas. Moi, je pense que tout de même, je sais pas si Vinokourov aura tout de même le poids d'Armstrong, mais bon, ça, on aura peut-être l'occasion d'en reparler. Kolobnev.
Non, mais pour se cantonner à Liège-Bastogne-Liège, le tour, on a encore le temps d'en parler.
Dites-moi.
Moi, je trouve ce qu'a fait Philippe Gilbert, c'était admirable.
Ah,
parce
ouais.
que, bon, comme d'habitude, il a fait une démonstration dans la côte. C'est dommage qu'effectivement, il ait couru peut-être un peu à contre-temps, mais parce qu'il a dit qu'il lui manquait une équipe au moment où
un équipier, ouais.
Où Vinokourov a attaqué. Mais bon, les autres, il n'y a pas de surprise. Cadel Evans, il est toujours excellent.
C'est vrai.
Toujours dans les cinq. On voit la suite, Andy Schleck, il a moins survolé que l'an passé. Mais bon, après le début de saison qu'il a fait... c'est quand même épatant de le retrouver sixième. Igor Anton, on l'a vu, pas de surprise. Il a battu Contador dans une arrivée au sommet, donc on savait à quoi s'attendre.
Tour de Castille-Léon.
Horner, il vient de gagner le Tour du Pays Basque. Donc tout ça.
C'est pas un jeune en plus.
Pour moi,
Horner, hein.
Non, mais tout ça. Mais il a fait 3x10 en plus.
Ouais.
Il était dixième à l'Amstel. Il a encore été là.
Ouais.
Donc pour moi, il y a pas de surprise. Contador, je trouve ça excellent que Contador vienne faire les classiques, la Flèche Wallonne et Liège-Bastogne-Liège, parce que c'est bien de retrouver les mêmes coureurs qu'au Tour de France. Avant, on critiquait tous les autres coureurs parce qu'ils se focalisaient que sur le Tour de France. Il faut aussi souligner cette volonté de Contador de venir sur
À Liège et sur la ligne de départ, tous les meilleurs étaient là. Il ne peut en manquer un seul, c'est Armstrong. Si tant est qu'on puisse encore le considérer comme un meilleur. Mais
il ouais, y en a qu'on retrouve pas dans le classement.
Tous les grands étaient là. Hein.
Par exemple, Wiggins,
passe un petit peu au travers, c'est vrai.
Il passe pas au travers, il ne prépare pas les classiques.
Oui, ouais. Ouais. Mais alors s'il ne prépare pas les classiques, justement, je
préfère voir Contador. On en parlera en juillet.
Nicolas Pertuis, justement sur...
Moi, je suis déçu encore. Je le disais ici la semaine dernière, la tactique des Schleck. Alors hier, Andy Schleck... L'année prochaine, est-ce qu'il va encore réattaquer dans la Roche aux Faucons ? Il y a deux ans, ils avaient déjà fait la sélection avec son frère là. Mmh. L'année dernière, il démarre là. Cette année, il ne surprend personne en démarrant au même endroit.
Oui, oui.
Il l'avait annoncé la veille en plus.
Ce qui est sûr, il y a tout de même une course animée, on est d'accord, messieurs.
Ouais,
il y a eu une belle course, il y a eu un beau final, Pierre, vous l'avez vu.
Non, il y a eu un beau final, mais il n'y a pas eu une course animée. Il y a eu une course d'attente jusqu'à la Rochefoucauld, puis c'est tout.
Oui, mais à partir de là, ça a commencé à.
À partir de là, disons que les 20 derniers kilomètres, ça a été super.
Oui, on parle du final, oui, Pierre.
Non mais Liège-Bastogne-Liège, d'abord c'est une superbe course, c'est ma préférée personnellement, hein, je vous le dis franchement, parce que je trouve que le terrain est magnifique, le cadre est magnifique, il y a tout pour faire une belle course.
Et en plus de ça, c'est francophone et francophile.
En plus, oui. Mais hier, en la regardant comme un téléspectateur, je l'ai trouvée intéressante, moi. J'ai trouvé que le final était très intéressant.
Oui, c'est vrai que j'ai trouvé, moi également, ce final plutôt palpitant. On ne savait pas trop, hein, parce que finalement, quand il place le démarrage, Philippe Gilbert, dans Saint-Nicolas, il fait un beau rapproché, il revient à 19 secondes. On se dit, est-ce qu'il est capable? Est-ce qu'ils vont se regarder devant? Alors certes, ça parlait russe devant. Je pense qu'ils doivent bien s'entendre. Donc ils sont...
Non, ils ne sont même pas parlé.
Ah bon? Ouais, mais ils ont bien relayé hein, jusqu'au dernier kilomètre.
Ils s'entraînent ensemble.
J'étais assez surpris d'ailleurs. Vinod Kouraf a passé un dernier relais à 700 mètres de la ligne d'arrivée. Je me suis dit, il ferait mieux de rester dans la roue. Et puis finalement, il a pu se replacer derrière Colomer.
Ils s'entraînent où, Jean-Paul?
Ils s'entraînent à
Tenerife, en Espagne.
Ah, c'est là où les Français doivent s'entraîner l'année prochaine, d'après ce que j'ai entendu.
Ça va marcher l'année prochaine. C'est clair. Bon, allez, justement, puisqu'on parle des coureurs français, on va accueillir Thomas Vauclair, le premier Français.
Ah, bravo,
hier,
Thomas.
11e position, je crois qu'on peut le féliciter. Il est avec nous, il était déjà venu nous voir dans Carrément Vélo. Salut Thomas.
Bonjour tout le monde.
Bonjour Thomas et bravo. Hein.
Alors il est en voiture, mais normalement ça devrait passer au niveau de la communication. Si jamais ça passe pas, ne vous inquiétez pas. Thomas, 11e hier. Bon allez, on peut considérer que c'est un top 10 tout de même. Et on vous a vu très remuant dans les derniers kilomètres. J'ai presque envie de dire, Thomas, que hier je vous ai senti capable de suivre ce petit groupe là avec les Evans, avec les Schley, Conton pour aller chercher une place dans les 10. Ça aurait été jouable.
Oui. On peut toujours avec des filles, tout est jouable, mais bon, c'est vrai que quand ils sont partis dans la côte de Saint-Nicolas, j'ai hésité un peu à y aller et au sommet il y a eu quelques secondes d'écart entre leur groupe et le mien, et bon après c'est justement cette petite différence qui font les places à l'arrivée, quoi, donc c'est toujours facile de le dire après, c'est sur le moment qu'il faut pouvoir le faire, et bon, j'étais quand même bien au taquet, comme on dit, quoi.
On vous a senti un peu frustré tout de même sur le final. On a senti que vous vouliez essayer de sortir, d'essayer de provoquer une petite sélection pour justement aller chercher une place. C'est quoi? C'est de la frustration qu'on ressent ou davantage
non,
de satisfaction?
Non, j'ai pas de la frustration. Simplement, il est vrai qu'une fois que ça s'est décanté dans la Rochefoucauld, derrière, il y avait quelques équipes devant de représentées avec les Evans, Gilbert et tous ceux et les coureurs qui étaient devant. Mais après, il y a pas mal d'équipes qui avaient deux coureurs, mais qui n'ont pas essayé de revenir, quoi. Tout le monde, par exemple, l'Ikigas ou les Quick-Step, il n'y a personne qui a relayé, même pas les Rabobank, pour essayer de revenir pour les places d'honneur, quoi, au moins la troisième place. Quoi.
Pierre Salviac est avec nous, Pierre.
Oui, non, mais que Vauclair nous explique qu'il a donné le meilleur de lui-même, moi je le crois vraiment, parce que c'est pas le genre de coureur, me semble-t-il, à en garder sous la pédale. N'empêche qu'il est 11e. Ça veut dire qu'il y a encore 10 coureurs devant le meilleur français. 10 coureurs. Ça veut dire que, encore une fois, ce fameux barrage n'a pas été franchi. Et pourtant, nous sommes dans des classiques qui, soi-disant, sont profilés pour réussir au coureur français. Alors, on va attendre longtemps. On va attendre longtemps, nous les téléspectateurs, avant de voir des Français dans des classiques qui, soi-disant, leur convient mieux, finir mieux classés que ça.
Thomas.
Écoutez, moi je vous laisse faire les bilans à chaque fois de ces dernières années. Maintenant, c'est sûr qu'on n'a pas de Français depuis quelques années dans les tout meilleurs sur les classiques. C'est pas sur moi qu'il faut compter pour vous vendre du rêve et vous dire que je vais gagner Liège l'année prochaine, parce que c'est pas mon discours. Là hier j'étais je pense vraiment avoir une forme par rapport à mon potentiel qui est pas loin de ce que je peux faire de maximum, quoi, hein. J'ai pas l'intention de m'excuser parce que je suis moins fort que Vinokourov, Valverde ou d'autres, mais voilà, je fais et après, si ça ne vous satisfait pas, rien ne vous empêche faut pas trop masticoter sur le terrain que les Français sont moins bons, quoi. Moi, je sais comment je fais du vélo, je me donne tous les moyens pour réussir, j'ai la chance de faire ce que j'aime, mais voilà, au bout d'un moment, bon, il faut peut-être plus supporter les Français que tirer dessus parce qu'on a du mal à faire dans les 10 premiers.
Moi, j'ai surtout l'impression qu'hier, tu n'as pas été récompensé de tes espoirs et de tout ce que tu avais fait au cours de cette course. Hein, ce n'est pas la place qui te revient, je pense, à mon avis. Hein.
C'était Jean-Paul Brochon.
Ouais.
Oui, mais j'ai reconnu la voix.
T'es gentil.
Non, mais c'est bon, depuis le début de l'année, c'est peut-être un discours un peu stéréotypé, mais bon, j'ai eu autant l'année dernière, j'avais la réussite qui allait avec les jambes. Là, j'ai eu des périodes où j'avais vraiment de bonnes jambes et bon, j'ai eu des pépins, que ce soit mécanique ou quoi. Et, souvent mécanique d'ailleurs, comme hier encore, où j'ai eu un problème de vélo juste avant la redouce. Donc, bon, je manque un peu de réussite, mais je me dis qu'en travaillant, il n'y a pas de raison que ça se repasse pas bien. Quoi. Mais maintenant, voilà, pour répondre à la question, oui, je pense qu'on va attendre encore un moment avant de voir vraiment un Français pouvoir jouer les tout premiers rôles dans les tout derniers kilomètres. Voilà, quoi.
Frédéric Millet du Cycle.
Moi, Thomas, je voulais savoir, qu'est-ce que tu penses, qu'est-ce que tu avais fait comme préparation pour cette classique, et qu'est-ce que tu penses de ce que dit Vinokourov, c'est-à-dire qu'il a été faire une semaine de stage aux Canaries en s'entraînant 7h30, et surtout qu'il a, prolongé ça par faire une course par étape du Tour du Trentin, avec juste une journée de récupération entre la course. Est-ce que c'est quelque chose que les Français pourraient faire? Qu'est-ce que tu penses de ce type de préparation et la mettre en... Et par rapport à la tienne?
Écoutez, je crois qu'il n'y a pas une préparation idéale. Les préparations se font en fonction des coureurs, des caractéristiques de chaque coureur. Après, pour ma part, comment j'ai travaillé pour aborder ces courses. Je sais le programme de course que j'ai fait avant, les fois où j'ai rallongé après les courses et les charges de travail que j'ai enchaînées. Donc, je sais que par rapport à mon potentiel, c'était difficile pour moi de faire davantage. Des 7 heures de vélo, Vinokourov, c'est pas le seul à les faire. Hein. Tous les coureurs pro le font. Ça. Et voilà, après, je pense pas qu'il y ait une préparation qui convienne à tout le monde. Dans l'absolu, je vois mal physiologiquement. Pour moi, l'idéal n'est pas de faire une course d'étape du mardi au vendredi précédant un objectif tel que Liège-Bastogne-Liège. Je ne pense pas que ce soit... Il faudrait interroger des entraîneurs qualifiés et compétents. Je doute que ce soit l'idéal d'enchaîner une course à étape juste avant une classique de 260 km pour être 100% délivrant.
Oui, Nicolas Pertuis, ce n'est pas forcément parce que ça réussit à Vinokourov que ça va réussir à d'autres coureurs.
Ah bah ça... C'est ce qui fait la beauté du cyclisme et du cyclisme dans l'entraînement en tout cas, c'est que chacun fonctionne en fonction de ce qu'il fait et de ses capacités. Une question bête, mais une question qui m'interroge ce matin. Moi, j'étais pas sur la course, malheureusement, j'ai pu voir qu'à la télé. Bonjour Thomas, déjà. Bon. Je voulais savoir, moi j'ai trouvé gros Vino. Alors toi qui as été à côté de lui hier par rapport avant 2007, est-ce que tu confirmes ce truc visuel que j'ai vu à la télé ou pas du tout, où il était comme avant?
Oui, il est moins affûté qu'il n'a été, ça c'est clair, oui. Bon, gros, c'est pas le mot. Hein, parce
non,
que,
mais bon, moi, j'exagère un peu.
Mais il est certain que, pour répondre précisément à la question, quand on regarde ses jambes, c'est sûr qu'il est moins affûté.
Ah, on a la communication se dégrade un petit peu. On va essayer de rappeler Thomas Vauclair pour parler de l'avenir, enfin des prochaines semaines et du Tour d'Italie auquel il va participer. Mais c'est sûr qu'on a le sentiment qu'il n'est pas franchement très très affûté tout de même.
Moi, c'est le Cadeleven, ça m'a paru encore plus surprenant.
Oui, mais c'est le cuissard, à damier, pas très beau d'ailleurs.
Ah bon, d'accord. Ça, c'est
moi, j'ai un souvenir de Vinokourov, si je peux me permettre.
Dites-nous.
C'était 48 heures avant qu'il ne soit exclu du Tour de France. On se trouvait dans le même hôtel et j'ai pris le petit déjeuner à la table à côté de la sienne. Et à ce moment-là, il avait des difficultés à marcher tout seul parce qu'il avait été victime d'une chute. Il était puis on aurait dit une momie. Et il était arrivé, après ça, il est remonté dans sa chambre. Il est redescendu en tenue de coureur. Et j'ai trouvé qu'il avait la même stature, même enveloppe musculaire que celle qu'il avait hier sur le vélo. Mais hier, je ne l'ai vu qu'à la télévision.
Oui, bien sûr, même si les images sont toujours un petit peu trompeuses.
Ouais, ouais, ouais.
Mais c'est vrai qu'on a le sentiment qu'il est un petit peu plus enveloppé. Bon, en même temps, j'ai envie de dire, on verra quoi. Il va faire le Tour d'Italie, il va s'assécher pendant 3 semaines. Il faudra voir en fin de saison, je pense qu'il aura perdu quelques kilos. Thomas, justement, on ne va pas vous déranger plus longtemps. Un mot sur les prochaines semaines pour vous, c'est le Tour d'Italie, hein?
Oui, Oui, c'est ça. Là, je pars pour le Tour d'Italie mercredi, donc pas dans deux jours, mais le mercredi suivant. Et donc voilà, je refais le Tour d'Italie. J'avais fait l'année dernière. On a une équipe box bien constituée normalement pour Giro, donc on espère que ça va bien se passer. Voilà.
Vous n'étiez pas passé loin d'une victoire d'étape sur le dernier Giro, Thomas.
Et non, oui, j'avais terminé deuxième derrière Philippe Gilbert à l'avant-dernière étape. Ouais.
Bon, cette année, ça va le faire. On y va pour gagner une étape, c'est ça?
Oui, je pourrais essayer de faire la course, pas non plus forcément tous les jours, parce qu'il y a des jours où il y aura des étapes de plus de 200, même une étape de plus de 260 bornes et beaucoup de plus de 220 bornes. Avec 4 au programme des fois, donc il y aura certains jours où je vais essayer de garder des cartouches, si on peut dire, parce que même si le Tour d'Italie est déjà un objectif en soi, il y a pas mal de courses, il y a encore après le Tour de France derrière, quoi. Donc il faut le faire à 100% tout en gardant certains jours, quoi. C'est pas évident à gérer.
Frédéric Millet,
est-ce que c'est toi qui as choisi d'aller au Tour d'Italie ou est-ce que Bbox avait besoin d'un leader et qu'il fallait que tu y ailles par contrat?
C'est un peu les deux, dans la mesure où j'aurais pas été déçu de ne pas y aller, mais en même temps, quand l'équipe a été acceptée au Tour d'Italie, il a toujours été convenu avec les directeurs sportifs que j'y prenne part, quoi. Le Tour d'Italie, c'est une épreuve, c'est une grande épreuve, il faut qu'on ait quand même une équipe solide. Et bon, voilà, c'est...
Ouais, l'organisateur voulait un leader, quoi.
L'organisateur, de toute façon, espère toujours avoir la meilleure équipe possible, ça c'est clair. Mais bon, je ne vais pas dire que j'y vais en reculons.
Bon, merci beaucoup Thomas. En tout cas, puisqu'on parle des Italiens, puisque je viens de regarder le classement, je l'avais déjà regardé tout à l'heure, il faut tout de même signaler, parce que c'est vrai, des fois on a peut-être tendance également, il faut savoir prendre un petit peu de recul. Et c'est important ce que vous nous dites, Thomas, de ne pas toujours rester focalisé sur les performances des coureurs français, même si c'est ce qui nous touche tout de même. Eh bien, hier, on n'a aucun Italien dans les 15 premiers. Et quand on connaît la valeur de Liège aux yeux des Italiens, bah c'est assez significatif également. Et c'est vrai qu'on ne le relève pas parce qu'ils ne sont pas français, mais ils sont italiens. Et nous, on a tout de même deux coureurs français dans les 15 premiers. Donc Thomas qui est 11e et Benoît Vaugrenard qui est tout de même 14e. Voilà, il fallait le dire également. Merci beaucoup Thomas.
Merci à vous.
À bientôt. Et puis,
je peux pas dire quelque chose à
bien sûr,
Thomas.
Thomas, allez-y.
Non, je voudrais dire une chose, Thomas. Je sais que tu fais le métier sérieusement et j'écoute tes arguments avec beaucoup d'intérêt. Mais tu sais, si beaucoup de gens comme moi sont venus au vélo, par passion, par intérêt, c'est parce qu'avant vous, il y a des générations de coureurs qui ont gagné. Et excuse-moi, mais même si je sais que vous faites le métier le mieux possible, peut-être parce que j'ai cette culture-là, je ne peux pas me contenter des 10 et 11e places.
C'est le cri du cœur, en fait. C'est ça que vous voulez dire, Pierre. Voilà. C'est le cri du cœur.
Voilà.
Ah non, mais moi j'aimerais bien faire mieux aussi. J'ai également de l'ambition, mais simplement, il faut peut-être pas toujours comparer les époques et aussi admettre que il y a les coureurs français. En ce moment, on n'a pas de Bernard Hinault, quoi. On n'a pas le coureur. On a beau travailler comme
on veut. C'est pareil dans les autres sports, hein, Thomas. C'est exactement pareil. Tu n'as pas à me faire croire qu'il y a des grands joueurs de rugby. Tu n'as pas à me faire croire qu'il y a des grands joueurs de football en France. Hein. si on regarde les résultats des derniers Jeux Olympiques, aussi bien les Jeux Olympiques d'hiver que les Jeux Olympiques d'été, c'est la Bérésina. Tu n'as plus un seul athlète.
Non, mais oui. Moi, tout ce que j'espère,
c'est comme ça, puis c'est tout. C'est cyclique.
Il y a une petite vague générationnelle, et j'espère que dans quelques années, on aura un coureur français qui nous gagnera le Tour de France et Liège. Et puis on aura oublié ces quelques années de 10 mètres.
Et puis je suis sûr qu'à ce moment-là, vous serez derrière le micro, Thomas, parce que c'est vrai qu'il a tout de même une faculté d'expression.
C'est clair.
Je pense qu'il n'est pas loin de venir nous rejoindre.
Ah, bah écoutez, en tout cas.
Ah, puis il sera le bienvenu, parce que là, je suis sûr qu'il sera meilleur que nous.
La porte est ouverte, là, il n'y a pas de souci.
Ah, Thomas, tu le sais, on en a parlé, ça fait longtemps. Hein.
Bon, ouais. Le message est passé. Merci beaucoup Thomas, à très vite sur RTL Équipe et bon courage pour ce Tour d'Italie.
RTL Équipe, carrément vélo.
Je crois qu'on a tout dit, hein, tout de même messieurs, sur Liège-Bastogne-Liège, on a parlé de la victoire, on a parlé des leaders. Est-ce que ça vaut le coup de revenir Nicolas Pertuis sur la Flèche Wallonne? Est-ce qu'il y a, c'était en milieu de semaine, hein, tout de même, c'est la semaine dernière, on n'en a pas parlé pour l'instant, la Fléchette. Avec la victoire de Philippe Gilbert, costaud.
La course de côte.
Manu,
la victoire de Cadel Evans.
C'est vrai.
Champion du monde.
Tu oses dire ça à Nicolas?
Ça a de la gueule tout de même, de voir un champion du monde lever les bras.
Ah bah ouais. C'est une victoire qui est terrible pour lui en même temps parce que...
Pourquoi?
Je vais vous dire pourquoi. Parce qu'il apprend je ne sais pas si c'est la veille ou l'avant-veille, que son entraîneur est gravement malade. Et donc, c'est une victoire un peu spéciale pour lui, Aldo Sassi. Oui.
D'accord.
Donc, pour lui, c'est spécial.
D'accord. Donc, c'est une victoire riche en émotions, voilà, pour Cadel Evans au sommet du mur de Huy. Et Contador qui n'est pas passé loin, Pierre Salviac, hein, de la victoire sur la Flèche Wallonne.
Oui, mais le mur de Huy, c'est quand même un terrain pour lui. Hein, donc, je n'ai pas été surpris qu'il soit là. Non, je suis plutôt d'accord, surtout pour dire que Contador, qui a a priori comme objectif de gagner le Tour de France, eh bien, face les classiques, ça prouve qu'on peut faire les deux.
Ouais, ça c'est assez intéressant, c'est vrai, de voir également Contador, c'est vrai. Oui, Nicolas ?
Le parallèle est assez drôle, parce que finalement, Contador a perdu la flèche parce qu'il a couru comme le Cadel Evans 2008-2009. Cadel qui faisait son effort toujours au milieu du mur, et qui cette année a vraiment attendu les 150 derniers mètres pour produire son effort, et il gagne.
Donc Contador sera vainqueur de la Flèche Wallonne version 2011.
Et c'est ce qu'il faut faire, quoi, maintenant.
Voilà, c'est ça. Frédéric Millet, sur la Flèche Wallonne, on peut rappeler le podium. Hein. Premier, Cadel Evans. Deuxième, Joachim Rodriguez, qui est bien revenu tout de même au sommet du Mont de Huy. Il était passé au travers de l'Amstel. On l'a pas vu, on l'a pas trop vu sur Liège hier. Et troisième, donc Alberto Contador.
Oui, Rodriguez, moi, j'avais lu partout que Philippe Gilbert voulait être numéro un mondial. Donc, je l'ai suivi hier à Liège-Bastogne-Liège. Il est au top depuis le mois de mars. J'étais content, quelque part, de voir qu'il ne pouvait pas rester au top depuis le mois de mars jusqu'à Liège-Bastogne-Liège. Mais bon, à 2-3 jours près, c'était le cas.
Oui, mais c'est vrai, il faut le souligner.
Et il est devenu. Et donc, Gilbert a réussi son objectif, qui est d'être, pour l'instant, il est numéro un mondial.
Philippe Gilbert, numéro un mondial. En tout cas, il n'a pas réalisé son rêve, c'est remporter Liège-Bastogne-Liège, hein, Nicolas Pertuis.
Oui, effectivement, mais on a parlé de Vino, on a parlé de Contador, mais n'oublions pas Gaspar Auto, aussi Astana, qui est sur le podium de l'Amstel.
C'est pas rien
pour ce coureur qui est fan, dont son idole était Charlie Mottet, faut le savoir. Pour
un Italien, oui. Ah, c'est impressionnant, ça commence à se faire ça d'ailleurs.
D'ailleurs, son surnom, c'est Charlie Gas.
Ah, d'accord, c'est marrant, ça vaudrait le coup de passer un petit coup de
fil. L'équipe Astana sera peut-être pas si faible que ce qu'on craignait à l'intersaison.
Oui, ça c'est sûr, de toute façon, on les retrouvera bien évidemment. Messieurs, 11h58. C'est déjà terminé, c'était chaud ce matin. C'était chaud ce matin avec Yvon Sanquière qui était avec nous dans la première demi-heure. Et puis on a eu Thomas Beauclair également, premier français.
Mais 11e. Vinokourov, non ? Pas au téléphone.
Vinokourov, non, apparemment, il n'est pas au téléphone. Ah. Il avait un avion ce matin, Bruxelles-Nice. Malheureusement, c'était un petit peu plus compliqué. J'en ai pas parlé pour l'instant parce qu'on voulait vous faire une petite surprise. Normalement, on devait avoir Alexander Vinokourov au téléphone. Malheureusement, bon, voilà, il y a beaucoup de problèmes en ce moment concernant le.
Pourquoi les portes ne s'ouvrent pas aussi facilement que ça ?
Voilà, concernant le trafic aérien. Vous êtes sur RTL Équipe. À venir, on fait une petite pause. Merci, messieurs. On vous retrouve la semaine prochaine. Merci, Nicolas. Merci, Frédéric.
Salut,
Jean-Paul Brouchon était en forme aujourd'hui. Pierre Salviac, comme d'habitude, depuis La Rochelle. On vous retrouvera bien sûr en studio dans les prochaines semaines. Merci beaucoup, Pierrot. On fait une pause.